Nous sommes pour l'heure en compagnie de Sophie Francoeur, sinologue et enseignante, à propos de Chine, 365 us et coutumes, aux éditions du Chêne, qu'elle a coécrit avec Anne-Marie Catelin-Ledu. Ce petit livre en dit long sur la mentalité des Chinois d'aujourd'hui, héritiers de coutumes ancestrales, passés à la moulinette de la modernité. Vie en société, famille, culture, loisirs, croyances, fêtes et vie privée. Avec ce petit livre dans vos bagages, vous ne ferez plus de gaffe lors de votre prochaine visite dans l'Empire du Milieu et vous ne ferez pas perdre la face à vos amis chinois. Je signale par ailleurs la très jolie maquette de l'ouvrage. Alors Sophie Francoeur, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ?
Ah, en fait, c'est une commande des éditions du Chêne qui ont demandé à la co-écrivain qui a écrit avec moi, Anne-Marie Catelin-Ledu, qui travaille pour eux depuis assez longtemps, de rédiger ce livre. Et nous avons donc travaillé à deux, puisque Anne-Marie Catelin-Ledu, qui est une très bonne journaliste et qui écrit fort bien, n'avait pas des connaissances suffisantes sur la Chine. Donc elle m'a contactée pour travailler sur ce livre.
Donc vous avez travaillé en binôme, et vous, parce que vous êtes vraiment une spécialiste de la Chine.
On a vraiment fait le fond et la forme.
D'accord. C'est votre premier livre ?
Je réfléchis, mais oui, c'est mon premier livre, oui. Oui, oui.
Alors, vous avez vécu à Shanghai, Pékin et Hong Kong. C'est donc là que vous avez glané la matière de votre livre ?
Alors, j'y ai vécu, mais il y a assez longtemps. Alors, la notion de temps, évidemment, en Chine, on parle toujours de temps millénaire, etc. Mais là, je n'y ai vécu qu'il y a une dizaine d'années. Mais en fait, en Chine, une dizaine d'années, c'est une génération, c'est une révolution qui se passe en 10 ans. Donc, on peut dire que même si j'y ai vécu dans les années 90, cela fait fort longtemps. Durant ces séjours, je suis beaucoup allée dans les campagnes aussi, parce que j'ai travaillé pour des ONG, donc j'ai vu les campagnes chinoises. Et j'y retourne très régulièrement, puisque j'emmène des groupes d'élèves dans les villes chinoises et dans les familles chinoises. Et là, je me rends à Pékin et dans la province du Sichuan, plus particulièrement à Chengdu.
Et donc là, vous avez entretenu vos connaissances sur la société chinoise.
Alors, j'ai entretenu, mais j'ai plus qu'entretenu, j'ai... renouveler mes connaissances sur la société chinoise. Ça a été un peu le casse-tête de ce livre, en fait, hein, puisque c'est une société qui est en mutation permanente. Et ça m'a surtout permis de vérifier que ce que je disais n'était pas extrêmement vieux et dépassé depuis l'année précédente, voire le mois précédent.
Ben, ce serait mieux que ce ne soit pas dépassé, parce qu'un livre, c'est quand même fait pour durer. Donc, il y a quand même des fondamentaux. Alors moi, pour commencer à rentrer un petit peu dans ces us et coutumes, j'ai envie de vous demander, puisque les Chinois viennent de fêter le 1er octobre, leur fête nationale, c'est-à-dire la création en 1949 de la République populaire de Chine, est-ce qu'il y a une coutume particulière pour ce jour précis ?
Alors, il n'y a pas de coutume, mais il y a des pratiques qui sont évidemment particulières. Mmh. D'abord, les Chinois ont des vacances au moment de la fête nationale. Alors, je ne sais plus, mais c'est 4-5 jours de vacances. Donc, la Chine s'arrête au moment de cette fête nationale. Il y a aussi, ce qui n'est pas une coutume, mais une pratique du régime chinois, il y a le grand défilé... annuel. Et puis voilà, quoi. Enfin, la fête nationale, c'est le moment où la Chine s'arrête et où tout le monde est devant sa télévision à regarder le défilé militaire sur la place Tiananmen.
C'est une fête de famille ?
Non, je ne crois pas, non. Non, mm-hmm.
C'est... Donc bah, finalement, c'est comme les Français qui regardent le 14 juillet à la télé.
C'est... Oui, sauf que c'est un peu plus solennel et puis il y a plus de vacances. C'est vraiment c'est une fête qui est beaucoup plus importante. Chez nous, on a le 14 juillet, mais on ne s'arrête pas de travailler pendant 4-5 jours. Je pense que la signification dans un pays qui joue beaucoup du nationalisme actuellement n'est pas la même. Le défilé... on le voit facilement sur YouTube, hein. c'est ouais, quelque chose à regarder.
C'est un vrai spectacle.
C'est un vrai spectacle, c'est une vraie démonstration de force avec les missiles, tout le monde en costume militaire, etc. C'est quand même pas pareil, quoi.
Oui, c'est un moment important pour le pouvoir.
C'est pas très festif, quoi. C'est... voilà.
Bon, très bien.
Le 14 juillet est plus festif avec ses balles populaires.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de balles place Tiananmen, quoi.
Non, surtout pas.
Alors, si on regarde un petit peu dans ces 365 coutumes, j'en ai relevé quelques-unes. Alors, j'ai vu que « comment ça va » ne fait pas partie du vocabulaire chinois. Quand on rencontre quelqu'un, on ne lui dit pas « salut, comment ça va ?»
Alors, on peut lui demander comment il va, mais c'est vrai qu'on lui demande aussi s'il a bien mangé, s'il est occupé. Ça se fait plus. Est-ce que tu as mangé ? Est-ce que tu es occupé ? Ça se dit aussi, ouais.
Mais alors, pourquoi on lui demande « est-ce que tu as mangé ?» Est-ce que ça veut dire qu'on ne mangeait pas tout le temps avant ?
Alors, ça fait partie des choses qui changent aussi dans la société. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ça se disait beaucoup. Maintenant, ça se dit moins. Ça va plus se dire dans les campagnes, moins dans les villes. C'est une société qui reste marquée par l'expérience de la faim. Alors évidemment, les gens maintenant mangent quand même à leur faim depuis maintenant au moins une trentaine d'années, depuis la réforme à l'ouverture. Mais ce que j'avais aussi envie de montrer, c'est qu'autour de nous, en Chine, les gens qui ont plus de 50 ans, 60 ans, ils ont connu la faim. Ils ont connu les tickets de rationnement, ils ont connu la famine dans les années 59, enfin 58, 59, 60. Et que cette expérience historique, elle reste très présente, que ce soit, je le raconte dans une autre anecdote, par exemple, moi j'ai vécu assez, moi qui ne suis pas une grande mince, un petit peu grassouillette, sans être extrêmement enrobée, les Chinois me disent à chaque fois qu'ils me voient que j'ai grossi. Et je m'en vexe depuis des années, alors que je ne devrais pas, puisque finalement, s'ils m'avaient dit que je maigrissais, je serais en mauvaise santé. Et j'en ai rediscuté justement quand j'ai écrit ce livre avec des Chinois d'une quarantaine d'années qui m'ont dit « mais c'est gentil de te dire ça, ça prouve que tu es en forme, que tu vas bien ». Et ça, c'est aussi un héritage de cette période où les gens n'avaient pas aussi assez à manger. Alors évidemment, les gens de 20 ans ne me disent pas ça, mais les gens un peu plus âgés que moi me disent que j'ai grossi et bon, je continue à m'en offenser, mais je ne devrais pas. Voilà, c'est normal.
Parce que ça veut dire que c'est en fait l'exact inverse de nos habitudes. Et puis ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à l'âge de son interlocuteur,
oui,
par rapport à ce qu'il, oui, nous dit et par rapport à ce qu'on lui dit.
Oui, alors c'est en Chine, le fossé de génération, il est absolument immense, hein, puisque les gens ont vécu des choses très différentes selon leur âge. Les gens de 60 ans ont connu, enfin de plus de 60 ans ont connu la famine avec le grand bond en avant. Les gens un petit peu plus jeunes ont connu la révolution culturelle qui a mis par terre toute la culture chinoise et qui a fait faire aux gens des choses absolument horribles, se dénoncer à l'intérieur des familles, etc. Ce sont des gens qui n'ont pas toujours fait d'études. Et puis, à partir des années 70, on a quand même la réforme et l'ouverture avec tout à coup un rattrapage au niveau économique et un rattrapage culturel, une soif de culture qui est là. Et encore après, dans les années 80, il y a la génération de l'enfant unique, avec encore un phénomène social absolument incroyable. Et puis ce phénomène d'enfant unique, l'ouverture s'accentuant. Dans les années 90, on a des gens qui naissent dans une société, en tout cas en ville, qui est quand même extrêmement occidentalisée. Et puis à la fin des années 90, le développement économique est pratiquement terminé. Donc vous avez des fossés générationnels qui sont absolument immenses. Et c'est vrai que moi-même qui rencontre des jeunes assez régulièrement, c'est un étonnement perpétuel de voir à quel point les gens sont différents. Je vais vous donner une toute petite anecdote. Je reçois très régulièrement donc des Chinois dans mes établissements scolaires. Quand on reçoit des gens de 50 ans ou de 40 ans, on fait très attention au menu, parce que les gens ne vont pas manger de fromage, ils ne vont pas trop savoir comment manger du pain, ils ne vont pas pouvoir manger de jambon cru, par exemple, parce que c'est de la viande crue, ça ne se mange pas. Si la viande est trop grosse, ça va être compliqué, il va falloir la couper, etc. Donc on fait attention au menu. Et puis, il ne faut surtout pas qu'il y ait des produits laitiers dans la viande, par exemple des sauces,
oui,
sauce au lait.
Au lait,
alors qu'avec des jeunes, on n'a pas à faire attention. La seule chose à laquelle il faut faire attention, ce n'est pas leur donner de choses froides le matin, parce que ça, c'est terrible. Mais ils sont ouverts, ils sont contents, ils découvrent, ils mangent du fromage, ils boivent du lait. Enfin, il n'y a pas ces problèmes-là. Et ce sont des gens qui ont 20 ans de différence. Mais, ouais, c'est...
mais sachant combien il est difficile de donner un âge à un Chinois, bon voilà, c'est c'est quand même pas facile tout ça. Que veut dire pour un Chinois perdre la face ?
Ah, alors ça, c'est très difficile à expliquer. La face, c'est pas la honte non plus. Alors la face, c'est montrer quelque chose. D'abord, c'est quelque chose qui est social, évidemment. Avoir de la face, ça va être plus simple de l'expliquer comme ça, c'est être dans une position où on se montre sous son meilleur jour, dans une position de réussite et dans une position où on maîtrise aussi ce qui est en train de se passer. Perdre la face, c'est difficile à expliquer. Donc déjà, on le perd, ça veut dire qu'à un moment, on l'a eu. On va mettre la personne dans une position inconfortable, et où elle ne va pas être sous son meilleur jour. Mais c'est extrêmement...
C'est subtil.
Subtil, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir décoder... la personne vous fait une proposition, par exemple. On propose, par exemple, une dame va proposer que son mari vous raccompagne chez vous. Vous allez dire non parce que vous pensez que c'est gênant, et puis, mais il faut dire oui parce que c'est la dame qui l'a proposé, et parce que ça voudrait dire que le mari... Que le mari n'est pas en capacité de vous ramener. Donc, c'est un peu compliqué. Et je dois dire que moi-même, je m'y perds depuis toutes ces années en Chine parce qu'on ne veut pas gêner. Et en même temps, quand quelque chose est proposé, il faut accepter.
Bon, voilà. On essaiera la prochaine fois. Alors, vous dites que les Chinois ont aussi leur version bling-bling. Et ça, c'est le numéro 69, la version bling-bling, où vous parlez de la deuxième génération de riches et que finalement, il y a des enfants assez mal élevés aujourd'hui.
Alors, la génération bling-bling, c'est intéressant. Donc, c'est ce qu'ils appellent le Fuarda et la deuxième génération de riches. Alors, la deuxième génération, on se dit, mais ça fait pas longtemps, en fait. Hein, donc, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Les premiers riches, c'est les années 80. Hein, donc, c'est assez proche de nous, en fait. Donc on a ces premiers riches qui vont s'enrichir grâce à l'ouverture. Et puis ça n'a pas été facile, hein, parce que quand même c'est quand même un régime communiste. Donc les réformes ont mis du temps à se mettre en place. On a cette première génération qui paye avec sa sueur et son travail et aussi ses relations, il faut le dire. Mais on a cette première génération qui est là. Et après, les enfants qui arrivent avec une certaine richesse et puis un certain confort... Et puis eux, ils ont tout dans les mains, en fait. Hein. Donc cette idée de deuxième génération de riches, c'est assez critique hein, quand on dit bah, ils sont là, ils ont tout, et puis bah, c'est des princes, quoi. Donc pourquoi... voilà, c'est négatif, quoi. C'est critique sur cette génération.
À voir ce qu'ils en feront, d'ailleurs. Alors, on peut entrer très jeune au Parti communiste chinois. Vous précisez que les jeunes pionniers, c'est dès 14 ans.
Oui, alors ça, je me le suis fait aussi expliquer par plusieurs personnes en Chine. On repère assez tôt, en fait, dans les écoles, les jeunes qui vont être des bons futurs membres du Parti communiste. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi en Chine les sanhao xuesheng, c'est les élèves qui ont les trois bonnes choses.
Les bons, quoi.
C'est les bons. Mais c'est les bons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il faut être un bon élève, il faut bien travailler à l'école. Mais il y a un aspect moral qui est très important. Que évidemment nous on n'a pas dans notre société, enfin, non pas qu'on soit une société immorale évidemment, ce que je ne pense pas, mais on va beaucoup accentuer sur une morale qui reste extrêmement communiste, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire il faut aider les autres, il faut être titi, c'est-à-dire très motivé, très actif, toujours aller de l'avant et être un personnage positif. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs le livre clôt sur une anecdote, c'est qu'on garde le personnage de Lei Feng, qui était le héros modèle dans les années quand même 60, et on retrouve ce personnage jusqu'à maintenant dans l'éducation des jeunes, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement désuet, hein, c'est l'idéologie maoïste pure et dure, mais on va repérer les jeunes à ça, quoi. Est-ce qu'ils sont bien moraux, quoi.
Bah, aller de l'avant, ça fera de bons entrepreneurs aussi. Hein.
Donc, aussi, oui.
Pas forcément que de bons jeunes communistes. Alors, quand on est jeune pionnier, on a un foulard rouge. Pourquoi on a un foulard rouge ?
Alors, le rouge, c'est la couleur... C'est formidable, ce rouge, parce que traditionnellement, c'est la couleur du bonheur. On le retrouve hein, pour les mariages, pour la naissance des enfants, dans les fameuses enveloppes rouges hein, qui portent bonheur et qui servent aussi à arroser dans les pots de vin. Et là, ça tombait bien pour les communistes chinois, puisque ils ont repris cette thématique du rouge, qui était une couleur très positive. Et puis maintenant, c'est repris... Enfin, pour les jeunes pionniers, c'est le sang de la nation et la couleur rouge du communisme. Mais c'est toujours cette idée de se dévouer soi-même pour la société. Hein, et on est prêt à payer de son sang.
Alors qu'on soit communiste ou pas, en Chine, on mange avec des baguettes.
Oui.
Ça, c'est extrêmement important. Comment on s'en sert de ces baguettes ?
Alors, je serais bien incapable de vous le dire, puisque je n'ai jamais appris. Hein. Je pense que, comme moi, vous allez dans les restaurants chinois et qu'il y a toujours un mode d'emploi des baguettes chinoises, mais on ne s'en sort pas. Donc, il faut s'en servir, en fait. C'est le meilleur moyen de s'en servir. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les planter dans son bol de riz. Puisque représentez-vous un hôtel chinois, devant vous avez des bâtons d'encens et des baguettes plantées dans un bol de riz rappellent les bâtons d'encens devant les tombes, les autels des ancêtres. Donc c'est de fort mauvais présages.
Il n'y a pas plus superstitieux qu'un Chinois. Deux Chinois peut-être.
Oui, je sais pas.
Parce que ne serait-ce que cette anecdote, voilà, tout est expliqué par un espèce de symbolisme, que ce soit la prononciation des mots, que ce soit à l'image justement, les baguettes d'encens et les baguettes. Et tout a l'air hyper codifié. Et on se demande ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont très superstitieux. Et alors, je voulais raconter cette anecdote. Là, les faux billets, le jour des morts,
ah
les
oui,
faux billets qu'on
ça,
brûle.
C'est intéressant. Moi, j'ai vu à Hong Kong. Hein, alors, d'abord, on brûle des billets pour les morts. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va brûler des objets que les morts affectionnaient. Alors, moi, j'ai vu à Hong Kong, c'est très impressionnant.
Ouais, parce que ça se fait beaucoup moins en Chine populaire.
Oui. Et vous allez dans des magasins, vous avez des voitures en papier, des valises en papier.
Des ordinateurs en papier, j'ai vu.
Des téléphones portables en papier, oui. Des bijoux en papier.
Des
et
vêtements.
En fait, tout ça pour le brûler, pour le mort. Alors, le problème des billets à brûler, c'est que ça met le feu. Hein, donc, les autorités essayent de promouvoir une manière de rendre hommage aux morts un peu moins dangereuse. Bon, évidemment... ça fait aussi partie des pratiques chinoises, comme ils disent « shang you zheng ce, xia you dui ce », c'est-à-dire il y a une règle, une loi politique, puis après on la contourne, quoi, on fait un peu ce qu'on veut. Donc les Chinois continuent à brûler des billets sur les tombes, mais ils ont aussi trouvé un nouveau moyen de rendre hommage à leurs morts, c'est rendre hommage sur Internet. Et on peut, alors c'est extraordinaire ce site internet.
J'ai suivi votre conseil, je suis allée voir le
et
site,
alors et
vous citez l'adresse, et j'ai été complètement estomaquée.
C'est incroyable. Alors on peut offrir donc c'est une tombe et on fait des offrandes sur la tombe, une tombe virtuelle. Alors ça, bon, déjà, donc ça veut dire que vous vous retrouvez avec des tombes, avec des tonnes d'oranges, des tonnes d'encens, etc.
Oui, il y avait des papillons.
Et puis, on peut faire le décor. Et là, vous pouvez mettre des papillons, des cerfs, des daims, des oiseaux. Alors, c'est d'un kitsch extraordinaire.
Et il y a la photo d'une personne avec sa date,
voilà,
etc.
Voilà, enfin, bon. C'est assez incroyable.
Non, mais ils sont précurseurs. Peut-être qu'on y arrivera, nous aussi, aux tombes virtuelles.
Oui, je ne sais pas.
un mot sur l'inévitable Ganbei. Que tous les...
Alors le Ganbei, c'est la terreur
des expatriés.
Des expatriés. Le Ganbei, c'est vider son verre. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le verre de vin doit être rempli à ras-bord. Et ça, je l'ai découvert en le faisant le livre. Depuis des années que je vais en Chine, on remplit mon verre de vin à ras-bord. Et ça y est, je sais pourquoi. C'est un signe de respect et de générosité. Donc il faut le faire comme ça, même si on s'en met plein les doigts et que ça déborde. C'est pas grave, il faut faire comme ça. Et après, verre vide. Mais verre vide, c'est verre vide, hein, quel que soit l'alcool qu'on a, même si c'est un vin rouge qui a priori se déguste, hein, et même si c'est un alcool très fort qui va vous arracher les dents quand vous allez l'avaler.
Mais la taille du verre n'est pas tout à fait la même.
La taille n'est pas la même, mais l'effet peut être assez terrible. Oui. Et le Ganbei, donc ça veut dire qu'il faut vider son verre. Et il faut le montrer à la fin, on retourne son verre, donc évidemment, il faut qu'il n'y ait plus rien dedans. Il faut le boire.
Voilà. Moi, j'ai toujours réussi à échapper, probablement en étant extremement impoli, mais là, c'était
au-dessus
de mes forces. Parce que je connais quand même des gens qui ont vécu des moments un peu difficiles, voire dramatiques. Donc, bon, voilà. Après, parce qu'avaler un verre de vin rouge cul sec de la taille d'un verre à Bordeaux, c'est quand même très
terrible.
Évident.
Bon, alors, on s'en sort hein, quand on est une femme, parce que ça reste une société quand même assez sexiste.
C'est vrai.
On est une femme, on peut trinquer au soda et au Fanta, on a le droit.
Ou alors on finit pas son verre, on fait comme moi. Alors les Chinois aiment bien cracher aussi, ce qui dégoûte les Occidentaux, mais c'est bizarre cette habitude, ça vient d'où ?
Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais ça fait partie des choses qui m'ont donné du grain à moudre, parce que les Chinois crachent, mais les Chinois ne crachent plus. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les villes maintenant on crache moins, mais qu'on entend quand même beaucoup encore dans les toilettes ou dans des endroits un peu plus confinés, les gens se racler la gorge et cracher. Alors que ça a été un gros problème au moment de l'épidémie de SRAS, parce que les gens crachaient encore beaucoup et on a essayé à l'époque de limiter cette pratique peu hygiénique.
C'est le moins qu'on puisse dire. Quelques conseils pour aller chez le coiffeur ?
Alors, le conseil pour aller chez le coiffeur, il y en a plusieurs. Donc d'abord, éviter les boutiques avec des néons roses, qui sont quand même souvent des lieux de prostitution, puisque la prostitution en Chine se loge un peu partout, hein, dans les bars, chez les coiffeurs. Deuxièmement, éventuellement apporter votre shampoing. C'est des choses que j'ai vécues. Vous vous dites très bien c'est une marque, mais ça peut être une fausse marque et vous vous en sortez avec des brûlures du cuir chevelu qui peuvent être... si c'est des contrefaçons, vous pouvez... Moi, ça m'est arrivé de me laver les cheveux avec des shampoings de contrefaçon. Ça peut être terrible, hein, parce que vous ne savez pas comment vous laver les cheveux. Et puis enfin, savoir qu'on va vous faire un massage du crâne, ce qui est extrêmement agréable.
Quand c'est bien
le shampoing dure très longtemps, hein, donc si vous avez que 5 minutes devant vous, il faut oublier. Et il faut vérifier la longueur des ongles de votre coiffeuse, parce que si elle a les ongles très longs, le massage peut se transformer en une séance beaucoup moins agréable. Et puis, on vous lave aussi avec une petite serviette mouillée. On va vous laver les oreilles, vous laver le visage, etc. Et voilà, mais c'est quelque chose qui peut être très agréable et c'est un grand moment de rencontre culturelle.
Une expérience à faire d'interculturalité. En Chine, avec la politique de l'enfant unique, le deuxième enfant se paye. Il se paye combien ?
Alors, ça dépend. Par exemple, à Chengdu, ça va être dans les 8000 euros, ce qui peut être très cher. Ça dépend du revenu des parents, de la ville, etc. Mais il y a quand même maintenant de plus en plus de gens qui contournent la politique de l'enfant unique en payant et après en jouant de leur relation pour que leur enfant ait accès à tous les droits qui sont fermés, normalement au deuxième enfant, l'école, les soins médicaux, etc. À tel point qu'à un moment, le Parti communiste avait décidé d'expulser du Parti communiste tous ses membres qui auraient deux enfants tellement la pratique était... dérogatoire était répandu parmi les membres les plus privilégiés ayant le plus de relations.
Sophie Francoeur, merci. Chine 365 us et coutumes aux éditions du Chêne avec Anne-Marie Catelin-Ledu.
Merci.